Rendez-vous avec l'actualité africaine sur RFI, Afrique Midi, 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Namouri Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans la libre antenne d'appel sur l'actualité. Comme chaque vendredi, vous avez la parole, que vous ayez un commentaire, une réaction, un coup de gueule. Nous ouvrons l'antenne à vos voix, vos témoignages, vos réflexions, afin de s'écouter, d'échanger, débattre et pourquoi pas rire ensemble. Prenez la parole, exprimez-vous, le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Je lirai également les réactions que vous nous avez fait parvenir sur le WhatsApp et le Facebook de l'émission. On ouvre cette libre antenne avec une actualité très importante cette semaine, la mort du pape François. Des milliers de personnes continuent d'affluer devant la basilique Saint-Pierre à Rome en Italie pour se recueillir devant la dépouille du souverain pontife qui a succombé lundi matin à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Nous sommes en ligne de Turin en Italie avec Wenceslas. Bonjour Wenceslas.
Bonjour Namori, bonjour.
Alors la mort du pape vous touche tout particulièrement, d'autant que vous avez eu la chance, l'occasion de le rencontrer. Racontez-nous.
Oui, oui. La première fois que j'ai vu le pape, c'était quand j'étais en classe de première à Bangui, en 2015. Et après 5 ans après, je me suis retrouvé au Vatican pour étudier la théologie pour devenir prêtre. Et j'ai eu plusieurs occasions pour le rencontrer. Nous nous sommes rencontrés à maintes reprises. Et ce qui m'a frappé... Dans son attitude, quand je l'ai rencontré, je ne voyais pas une personnalité emblématique de l'Église, mais une personne simple, avec son souffle légendaire. Et la première fois quand on s'était rencontrés, nous nous sommes vus, il m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit je viens de Centrafrique. Il m'a dit oui, j'ai été chez vous, est-ce que tu m'as apporté un pain? Nous avons souri, il m'a parlé de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, je ne suis plus séminariste, non. La dernière rencontre avec lui a été encore plus forte parce que cette rencontre-là m'a aidé à faire le choix que j'ai fait aujourd'hui de ne plus poursuivre ma vocation de prêtre parce que la rencontre, il m'a parlé de l'authenticité, de faire un choix libre, de ne pas faire un choix qui puisse peser.
Alors, Wenceslas, je vais être obligé d'écourter votre intervention car la ligne, malheureusement, elle se dégrade et on n'entend pas très bien ce que vous nous dites. Néanmoins, on a bien compris l'essentiel de votre propos. Vous avez rencontré le pape et il a joué un grand rôle dans votre parcours jusqu'ici. Wenceslas, merci d'avoir témoigné. Je rappelle quelques réactions, notamment sur les réseaux sociaux avec Francis Dadi qui nous dit que je me souviens de son entrée au stade Barthélemy Boganda en République centrafricaine le 30 novembre 2015, avec son sourire humble et fidèle, serviteur, un exemple à suivre, notamment un exemple de Saint François d'Assise dont il s'inspirait. Nous sommes également en ligne avec Dieu le veut, en ligne de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bienvenue Dieu le veut.
Bonjour Namouri, merci beaucoup.
Alors vous souhaitiez également rendre hommage au pape, mais également à ses 12 années de pontificat. On vous écoute.
Ah oui, merci beaucoup pour la parole qui m'est accordée. Déjà, le pape François est le premier souverain pontife de l'histoire, à ce que je sache, à mourir spécifiquement un lundi de Pâques. C'est déjà quelque chose d'étonnant et cette coïncidence liturgique est donc vraiment unique dans l'histoire de la papauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et nous pouvons vraiment retenir de son mandat de 12 ans, de 2013.
Alors justement, Dieu le veut, qu'est-ce que vous retenez de son pontificat qui a duré 12 ans?
En tout cas, je retiens beaucoup plus que son cheval de bataille, beaucoup plus pour la miséricorde aux pauvres, vous voyez un peu, et beaucoup plus sur la paix et la diplomatie. Il a insisté beaucoup sur la paix et la diplomatie. Et vous vous souviendrez même que son dernier message avant de mourir, lors de la messe de Pâques, il a plaidé pour Gaza. Vous voyez, donc je retiens vraiment beaucoup plus cela. Et surtout pour nous aussi, les Congolais en RDC, lors de son passage, il a beaucoup parlé sur sur la paix en RDC.
Alors justement, Dieu le veut, hein, la disparition du pape François a ému nombre de nos auditeurs en République démocratique du Congo. Ils nous ont adressé énormément de messages et ils se souviennent avec émotion de sa visite à Kinshasa, c'était en 2023. Le pape avait dénoncé, je cite, le colonialisme économique. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. C'est ce qu'il avait déclaré, hein, en terre congolaise. Dieu le veut, ce message, comment est-ce que vous l'avez reçu ?
Oui, j'ai reçu ce message comme un appel, un signal fort au pays, je peux dire au pays industrialisé, parce que dans l'un de ses chevaux de bataille, il a beaucoup parlé aussi de l'industrialisation qui polluait l'environnement. Et je pense que ce message était un message vraiment adressé aux nations développés qui avec leur énergie renouvelable, avec leurs usines qui polluaient la couche d'ozone. Je pense que ton message écologique est vraiment très important et ça demande vraiment à ce que cela puisse être revu pour que nous puissions vraiment lui rendre un hommage à partir de ce qu'il a voulu. Donc voilà un peu, je pense que ce message est un message vraiment fort pour tous les pays industrialisés.
Dieu le veut, merci infiniment d'avoir témoigné de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et on salue également les nombreux auditeurs qui nous écoutent dans la capitale quinoise, direction Conakry, la capitale de Guinée, où on nous attend Alpha. Bonjour Alpha.
Bonjour Namouri, et je salue l'ensemble de vos travailleurs, plus particulièrement Yasmine.
Merci Alpha. Alors vous avez souhaité saluer l'œuvre du pape François, notamment en ce qui concerne le dialogue interreligieux. Comment est-ce que cet aspect de son pontificat vous a-t-il marqué ?
Avant tout d'abord, mes sincères condoléances à l'Église catholique et aux jésuites, la confrérie à laquelle appartenait le pape François et aux fidèles chrétiens à travers le monde. Le pape François était l'un des papes le plus ouverts à travers l'histoire de la catholicité. C'est le seul qui a tendu la main à l'islam selon ma connaissance et s'est déplacé vers une contrée islamique pour signer un traité international et interreligieux sur la fraternité humaine avec l'imam d'Al-Azhar à Doha. Pour l'Église catholique, il est le pape des migrants, des pauvres, de la fraternité, l'annonciateur du ziblé et de 2025. Le ziblé de miséricorde auquel tout pèlerin chrétien qui effectue son pèlerinage durant l'année 2025 à Rome obtiendra une indulgence plénière qui effacera sa peine temporaire. C'est pape François avait consacré son pontificat à l'église de Fatima du Portugal. Un lieu d'apparition mariale, lieu de pèlerinage catholique et très touristique.
Alors Alpha, on a bien entendu l'hommage que vous rendez au pontificat de François qui nous a quittés ce lundi à l'âge de 88 ans. Néanmoins Alpha, qu'attendez-vous de l'Église aujourd'hui après le décès du pape François ? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église en ce qui concerne le rapprochement entre les religions qu'il avait initiées lors de son pontificat ?
J'attends à l'Église encore de continuer les œuvres de pape François, parce que lui, il avait non seulement l'initiative d'initier le monde, non seulement le monde chrétien et le monde musulman. Il est le seul encore, jusqu'à sa dernière souffle, il défendait les pauvres. Dès que quand vous prenez la violence qui se passe à Gaza, actuellement, il a toujours appelé à la paix. Et si vous voyez en Ukraine, lorsque la Russie a agressé l'Ukraine, il a toujours pris position, il a toujours défendu les faibles. Et concernant les migrants qui partaient aux États-Unis, lorsque Donald Trump a haussé le ton, il est le seul qui a résisté, qui a dit donc à Donald Trump de laisser les migrants et de ne pas les rapatrier. Donc moi, je demande à ce à l'Église, de continuer dans ce livre-là pour augmenter encore. Parce que, vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai lu dans son histoire, selon ce que j'ai vu, ils ont dit que le pape François, ce qu'il recevait, il partageait tout aux pauvres. Tout ce qu'il a laissé comme héritage, selon ce que j'ai vu, je n'ai pas tellement vérifié, mais ils ont dit que c'est $100 qu'il a laissé. Ça veut dire que c'est un homme humain. Donc, il a l'humanisme, il a, comment dire, c'est un sage.
Merci Alpha.
Il compte pour les pauvres et tout le monde doit prendre exemple sur lui.
Merci Alpha. Merci Alpha pour votre témoignage. On a bien ressenti l'émotion que vous aviez depuis l'annonce de la disparition du pape François. À noter que les obsèques du pape François se dérouleront demain à Rome, au Vatican. Et vous pourrez suivre tout ceci grâce à une édition spéciale que nous vous proposerons à partir de 8h temps universel sur les antennes de RFI. Tout autre sujet à désormais, nous accueillons Athanaël qui nous appelle d'Antananarive à Madagascar. Bonjour Athanaël.
Bonjour, bonjour Evi, bonjour auditeurs et auditrices.
Alors vous souhaitez réagir aux 2 jours de visite d'Emmanuel Macron sur la Grande Île, on vous écoute.
Oui, tout d'abord, je souhaiterais commencer par de féliciter président Macron et notre président André Duhem pour cette initiative par rapport à la mise en place de la commission mixte pour par rapport aux colonisations, parce que franchement, il y a des choses qui ne sont pas claires. Moi, je suis issu d'une formation en tourisme. Et j'ai travaillé comme guide touristique à Madagascar et ça m'a permis de rencontrer des vieux dans les villages perdus qui ont vécu la colonisation. Donc ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont dit, c'est pas par rapport à ce qu'on a appris à l'école, ce qu'ils sont dans les livres.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit très précisément, Athanaël? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté?
La plupart des gens. Ils ont dit qu'il y a vraiment de torture, il y a vraiment des génocides. Et celui-là, c'est dans ce sens-là que je souhaiterais vraiment...
Alors vous avez employé le mot génocide. Historiquement, d'après les documents qui existent aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'un génocide à Madagascar, mais plutôt d'une répression sanglante qui a coûté la vie à des milliers de personnes de la part de l'armée française de l'époque.
Oui, on parle de 10 000 à 100 000 morts.
Oui, non, je voulais juste rectifier sur le mot génocide, mais poursuivez, je vous en prie.
Oui, oui. Donc voilà, il faut justement, c'est par rapport à ça, parce que pour nous et pour la plupart de Malagas qui ont vécu la colonisation, il y a vraiment des tortures et qu'il faut vraiment donner des explications et pour arriver à vraiment s'exprimer, à expliquer aux gens ce qui se passait vraiment pendant la colonisation.
Alors c'est peut-être pour cela que Emmanuel Macron a décidé d'organiser une commission d'historiens mixtes, français et malgaches, afin de faire toute la lumière sur cette page sombre de l'histoire de Madagascar. Justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, des résultats en ce qui concerne cette commission mixte d'historiens malgaches et français ?
Moi, ce que j'attends par rapport à cette commission mixte, c'est au-delà de cette commission, en fait. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des îles éparses. Donc, la commission, on parle de colonisation, et pourtant, on voit bien que la décolonisation de Madagascar n'est pas achevée. Il y a cette histoire des îles qui ne sont pas rendues, et ce sont des îles malgaches.
En effet, Madagascar revendique les îles éparses, tout comme les Comores qui revendiquent l'archipel de Mayotte. Ces deux territoires français occupent une position stratégique dans le canal du Mozambique, carrefour stratégique du transport maritime international et riche en hydrocarbures, raison pour laquelle les différents partis se disputent ces îles.
Oui, normalement, on ne devrait pas se disputer parce que la décision de l'ONU est claire et nette. Donc, la décision dit que la France devrait restituer ces îles à Madagascar, parce que ce sont des îles qui appartiennent à Madagascar. Et après, c'est à Madagascar, à l'État malgache, de choisir avec qui on va travailler ensemble. Vu la relation entre Madagascar et la France a, je peux dire, même 80% des possibilités d'être partenaire, collaborateur de Madagascar pour gérer ces îles après.
Et à ce sujet, sachez qu'une réunion de la commission mixte franco-malgache dédiée à ce sujet doit avoir lieu le 30 juin prochain à Paris. C'est ce qu'ont annoncé les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Ange Radzoel. Athanaël, nous avons bien saisi votre intervention et notamment vos attentes par rapport au sujet de l'histoire malgache avec la répression ou encore le sujet des îles éparses. Merci de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de votre témoignage. On va passer à un autre sujet. Si vous avez le temps, Athanaël, vous pouvez rester puisqu'il s'agit de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne avec Joël qui nous appelle de Yamoussoukro, la capitale administrative. Bonjour Joël.
Oh, mauvais.
Alors, vous souhaitez réagir au sujet de Tidiane Thiam, le chef du PDC-IRDA, un des principaux partis d'opposition dans le pays, et de sa radiation de la liste électorale qui est intervenue cette semaine. On vous écoute, Joël.
Merci, Namori, de m'avoir donné la parole. Et là, nous, Ivoiriens, nous comprenons que cette décision est une décision politique, pour plusieurs raisons. Cette même juge qui a rendu cette décision le mardi passé, c'est la même personne qui avait empêché le congrès du PDCI en décembre 2023. Par pure coïncidence, c'est cette même personne encore qui reçoit cette requête pour rendre une décision politique. Ça fait un. La seconde raison, nous savons tous, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. La CAN cette année, l'année passée, en 2024. Les joueurs qui ont remporté cette CAN, qui nous ont donné la joie au cœur, ont plusieurs doubles nationalités.
Alors Joël, on va tenter de rectifier, de recentrer le débat. Hein. On va oublier les histoires de CAN, on va se concentrer sur Tidiane Thiam. Vous dites qu'il s'agit d'une affaire ou d'un résultat politique. Néanmoins, il y a une séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire et la justice et le politique n'intervient pas dans les affaires judiciaires. Est-ce que vous avez des éléments concrets au-delà du fait de dire que c'est tel juge ou tel juge qui a participé et qui a jugé cette affaire?
Oui. Je suis en train d'étayer mes propos en donnant ces exemples. Puisque on remet la nationalité de Thiam en cause, donc on doit remettre aussi certaines nationalités-ci en cause.
Mais tout le monde n'est pas candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, Joël.
Comment ?
Tout le monde n'est pas candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, Joël.
Parce que Thiam est un candidat gênant. Thiam est un candidat sérieux face à Alassane Ouattara. Ils le savent très bien. Et donc, il faut trouver toujours des alibis pour l'écarter. Ça avait commencé depuis à l'élection de la tête de PDCI en décembre 2023. Ils ont toujours trouvé des alibis pour empêcher ce congrès. Et que maintenant, le monsieur, il a été publicité par le parti, le PDCI. Il a été publicité par le PDCI à plus de 95%. Et il voit maintenant qu'il devient un candidat très sérieux, un candidat gênant. Il faut trouver un moyen pour l'écarter à l'élection politique. À l'élection présidentielle.
Joël, on aura bien entendu votre point de vue. Hein. Selon vous, il s'agit d'une décision politique, hein, même si tous les éléments factuels qu'il y a sur la table stipulent qu'il s'agit d'une décision judiciaire, notamment qui s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Joël, restez avec nous. J'aimerais que vous entendiez le point de vue de Zana qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Zana.
Bonjour Namori, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Comment est-ce que vous recevez les paroles de Joël qui estime que la radiation des listes électorales de Tidiane Thiam est un acte politique et non judiciaire?
Oui, je ne partage pas le point de vue de mon compatriote Joël. Je pense qu'effectivement, c'est l'argument qui est brandi par pratiquement l'ensemble des militants du PDCI. Et pour nous, effectivement, c'est une décision de justice qui a été rendue selon la procédure et par un juge. Voilà, donc pour nous, c'est une décision de justice et pas d'autres commentaires en dehors de cela.
Alors, lorsque l'entourage de Tidiane Thiam dénonce depuis plusieurs semaines des manœuvres orchestrées par le pouvoir pour l'écarter de la présidentielle, qu'est-ce que ça vous inspire?
Après, pour nous, déjà, il faut y recentrer effectivement cette décision dans son contexte et aussi revoir le motif de cette décision. Il faut savoir que cette décision intervient dans le cadre, effectivement, du processus de révision de la liste électorale qui a démarré depuis octobre 2024 et qui devrait s'achever en juin 2025. Et nous sommes dans la phase du contentieux sur la liste électorale. Et selon le code électoral qui est en vigueur en Côte d'Ivoire, en son article 12, qui prévoit effectivement que tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là qu'un certain nombre d'électeurs, dans leurs droits, ont estimé que M. Tidiane Thiam était indûment inscrit sur la liste électorale, parce qu'il faut savoir que l'inscription de la liste électorale, sur la liste électorale de M. Tidiane Thiam intervient en 2022. Et à cette période-là, selon le motif avancé par ces plaignants, c'est que M. Tidiane Thiam n'était pas ivoirien. Et aujourd'hui, nous avons effectivement tous les éléments qui prouve le fait effectivement que M. Tidiane Thiam était...
Eh bien, Zana, nous continuerons de suivre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment dans Appel sur l'actualité ou encore sur le site RFI.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette libre antenne. Lundi, vous retrouverez Juan Gomez pour parler du Bénin avec l'attaque qui a coûté la vie à 54 militaires.
Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.